Amen, amen, bonjour à tous. Il y en a qui me connaissent, ils me disent bonjour Jean-Luc, c'est gentil. Bonjour Jean-Pierre. Alors, voilà, c'est bon. Ce matin, donc, je vais dire pour la deuxième fois, je vais vous parler de Noël. Ce message, je savais que je devais le donner, donc celui de dimanche dernier, ce n'était pas prévu. Mais celui-ci, je savais que depuis au moins un mois, le Seigneur avait mis quelque chose dans mon cœur par rapport à l'image de Noël, par rapport à tout ce que ça peut véhiculer. Et en fait, c'était un petit peu quel message on retient de Noël. Et là, j'ai mis « Change mon regard sur toi, Seigneur ». Parce que je vais vous parler du regard qu'on peut avoir sur Noël, du regard que le monde peut avoir sur Noël et sur Dieu, sur Jésus en général, quoi. Et parce qu'il y a beaucoup de représentations diverses et variées qui sont données au moment de Noël. Et certaines, je n'hésite pas à le dire, qui sont toxiques. Et donc, vous serez d'accord avec moi, quand nos yeux se sont ouverts par la grâce de Dieu, pas par notre nos capacités extraordinaires, mais par la grâce de Dieu, il est venu nous donner son regard. Et c'est vrai que quand j'étais petit, on me parlait du petit Jésus. Il était petit, le petit Jésus. Et donc, quelque part, inoffensif, sans puissance. Il y avait aussi le Père Noël. Alors là, c'était autre chose. Mais on a compris que c'était un mensonge. Mais quand même, il y a des choses qui peuvent rester quand je vous parlais de toxicité dans le message. Mais même, on peut parler de Jésus mort sur la croix. On se dit, mais puisqu'il est mort, qu'est-ce qu'il peut ? Mais non, il est vivant. Il n'est plus sur une croix. Et le message que Dieu a pour nous, c'est qu'il a voulu pour nous une alliance éternelle. Une alliance éternelle qu'il a décidé pour nous de nous donner. Donc nous allons parler beaucoup de ces choses-là. Enfin, beaucoup. Mon message ne va pas être très long, rassurez-vous. On va commencer par un texte dans Luc 17, du verset 20 au verset 21. Celui que j'ai retenu, c'est dans Parole vivante. Un jour, les pharisiens lui demandèrent à Jésus, « Quand le règne de Dieu arriverait ?» Jésus leur répondit, « Le règne de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire, comme un événement extérieur qu'on pourrait observer avec nos yeux. » Les gens ne pourront pas dire venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. Il est en nous pour tous ceux qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous en ai parlé déjà dimanche dernier. Je me suis rappelé qu'une des choses, vous savez, le Seigneur dépose des choses. Et souvent assez précocement quand on vient à lui. Et ce que j'avais reçu, c'est de vivre l'intimité avec le Seigneur. Que puisqu'il s'est donné, puisqu'il est vivant, puisqu'il veut cette alliance avec nous, il veut cette intimité, il veut ces échanges, il veut que nous vivions avec lui. Et non pas... lui d'un côté, nous de l'autre, et puis de temps en temps, on a besoin, on vient le voir. Non, il veut cette connexion parfaite. Il est en vous. Et donc, ce que Luc témoignait, c'est que Jésus avait dit, il n'y aurait pas de signe visible du royaume de Dieu. Et il faut bien dire qu'on en est dans une civilisation où il y a beaucoup d'images et on abonde d'images dans tous les sens, et on peut croire aussi que on a besoin de se tourner vers l'extérieur, de se tourner vers le monde, de se tourner vers quelque chose de visible pour aussi connaître le Seigneur. Mais mon message n'est pas celui-là. Et le message de l'Évangile n'est pas celui-là. Il est en vous, il vit en vous. Et ce n'est pas par nos sens physiques non plus que nous allons le percevoir, mais c'est par son esprit qu'il a mis en nous. Il est en nous. Et c'est sûr, c'était très surprenant pour le monde religieux de cette époque-là, comme ça l'est toujours. Comment comprendre qu'un Dieu si grand, si merveilleux, puisse venir faire son habitation dans le cœur d'un homme, d'une femme si vulnérable. Et on peut se rappeler aussi dans Deutéronome, donc chapitre 5, verset 8, ce qui nous a été dit depuis très longtemps, ce que Dieu avait dit à Moïse, « Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut, dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux et plus bas que la terre. » Et bien sûr, on se dit, dans la civilisation qu'on vit aujourd'hui, mais Jean-Luc, tu es complètement à côté de la plaque. Alors peut-être je suis à côté de la plaque, mais je sais que la parole de Dieu n'est pas à côté de la plaque. Et bien sûr, ça me pose un problème. J'ai pas peur de le dire, ça me pose un problème. De dire, mais pourquoi l'image est partout? Qu'est-ce qu'on doit en faire finalement? Et vous savez que toutes les religions ont fait des statues, plus ou moins grandes, plus ou moins horribles. Vous voyez, des fois, ça m'a fait peur. Hein. Et ces images sont faites à l'image des hommes parce qu'elles sont limitées. Mais Dieu est tout-puissant, il est illimité. Il est illimité et il veut se manifester dans notre cœur, tout simplement. Et notre Dieu ne se connaît, dans le sens intime, comme un homme connaît une femme. Il ne se connaît que par le cœur à cœur. Il ne se connaît pas par l'image. L'image est superficielle et ne donne qu'une dimension. Et c'est vrai que ce verset-là, je ne sais pas si ça vous a interpellé, ne pas se faire de représentation visuelle du monde, des créatures que Dieu a fait. Et en fait, pour nous, c'est partout, quoi. Et Robert parlait d'une Bible pour enfants. Dans les Bibles pour enfants, il y a des représentations. On utilise des films pour présenter Jésus. Et tout ça, je dis OK dans le sens où on rapporte ça à sa valeur. C'est-à-dire, c'est une illustration en donnant la limite de ce que c'est. Mais que Dieu ne se rencontre pas là, Jésus ne se rencontre pas là, mais il se rencontre dans notre cœur. Ce n'est pas par ce qui vient de l'extérieur, mais ce qu'il va mettre à l'intérieur de nous. Ah. Yvan, tu peux passer la suivante parce que j'arrive pas à aller plus loin. C'est bon? Alors je voulais vous lire Ésaïe 55. Quel texte merveilleux. Quel texte merveilleux. Donc où Dieu annonce la venue de Jésus et sa venue pour tous les hommes. Donc c'est vraiment un appel puissant de la part de Dieu à venir vers lui. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, c'est vrai que ça demande quand même cette soif pour venir au Seigneur. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Cette alliance éternelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà ce que le Seigneur désire faire avec nous. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur commandant les peuples. Voici, tu l'appelleras une nation, tu appelleras une nation que tu ne connais pas et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. C'est vraiment l'annonce de Jésus venant pour cette réconciliation de tous les peuples de la terre avec lui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Non ? Voilà. Donc la suite d'Ésaïe 55. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Qui aurait pu concevoir, qui aurait pu penser qu'on pardonnerait le méchant, les pires personnes de l'humanité? Qui pouvait penser ça? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen, Seigneur. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamations devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Alléluia. Une renommée pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une renommée pour une religion, pour des idoles, pour un mouvement quelconque. C'est un mouvement qui glorifie Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Une renommée pour la gloire de Dieu. Et donc, bien sûr, nous sommes influencés par toutes ces images, vous voyez des statues derrière qui finalement représentent quoi? Qui représentent la domination de l'homme. Quand on voit les statues, donc bon, c'est en Corée, donc de Kim père et Kim fils, et beaucoup plus lointain dans le temps, les pharaons. Et toutes ces statues énormes que peut-être on peut admirer, finalement, n'ont été que des images de domination. Alors que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas une domination, c'est vraiment une libération. Amen. Et donc tous ces despotes, toutes ces religions n'ont fait souvent que rabaisser les hommes. Et au contraire, Dieu veut nous élever. Et quand j'ai pensé à Jésus, ce qu'il, qu'il faisait. Un des gestes peut-être les plus surprenants qu'ont surpris les disciples, c'est le lavement des pieds. Imaginez ce matin Jésus venant vous laver les pieds. Vous avez vécu avec lui déjà un certain temps, vous le connaissez un petit peu ou beaucoup plus. Imaginez que Jésus vienne vous laver les pieds. Moi, je serais gêné comme Pierre. Je demanderais des explications. Et Jésus est venu nous présenter le Père. Il est Dieu et il s'est abaissé à l'état d'un serviteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Il est venu pour libérer les hommes de leurs péchés. Et bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces images qui peuvent concerner le christianisme, je ne suis pas à même de juger ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais en tout cas, nous devons avoir une idée claire sur la place que ça doit prendre. Et en tout cas, de ne pas venir prendre la place du message central que Dieu veut venir habiter dans nos cœurs, qu'il veut se manifester dans nos cœurs, qu'il veut parler à nos cœurs, que ce n'est pas une manifestation extérieure, voire grandiose, spectaculaire, c'est une manifestation intime dans nos cœurs. Donc Ésaïe 55:8 nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et c'est vrai que quand nous parlons de la vérité, souvent nous pensons avoir la vérité. Qu'est-ce que c'est compliqué de dire, d'affirmer une chose comme celle-là, d'avoir la vérité. Nous pouvons avoir ce que le Seigneur nous révèle et continuer de marcher humblement pour recevoir une autre part de vérité. Et il y a une histoire aussi qui m'est revenue donc en préparant ce message, qui est complètement surprenante. C'est le malfaiteur sur la croix. Cet homme-là était un grand malfaiteur. Je pense qu'il a sûrement avait dû tuer quelqu'un pour être condamné à mort. Et vous savez qu'au début, il y a une discussion et puis c'était « Puisque tu es Dieu, libère-toi et libère-nous en même temps. » Et à un moment donné, ce malfaiteur dit à l'autre malfaiteur, « Pour nous, c'est juste ce qui nous arrive, mais pour lui, c'est injuste. » Et puis il lui dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et j'ai lu un commentaire j'ai pu retrouver le manuel, c'est un manuel de commentaires bibliques, et qui disait, « Les disciples ont dû avoir vraiment une grande honte quand ils ont entendu ces choses. » C'est-à-dire qu'un malfaiteur, quelqu'un qui n'a jamais été avec Jésus, peut-être il a entendu le message de loin, peut-être on lui a rapporté. Les disciples avaient marché avec Jésus. Pendant 2 ans et demi, 3 ans, ils avaient reçu son enseignement et eux n'avaient pas encore compris que le règne de Dieu n'était pas pour ce monde, que Jésus, le Messie, allait ressusciter. Et cet homme-là, il dit, « Quand ton règne sera venu, souviens-toi de moi. » Lui, il savait que Jésus allait ressusciter. Dites-moi qui peut parler aux hommes comme ça. Qui peut apporter cette vérité dans le cœur des hommes. Ce ne sont pas des temps et des temps d'enseignements qui sont utiles, c'est vrai, mais ce dont nous avons besoin, c'est la révélation de Dieu. Et cet homme-là, sans doute, ça a été un des premiers, voire le premier, que Jésus a accueilli dans le ciel. Imaginez-vous. Et donc, si je vous dis ça, c'est que on doit crier après la révélation de Dieu. Crier, appeler à ce que le Seigneur vienne éclairer notre cœur. Venir repousser nos barrières, nos limites que nous avons mis. Afin que ce soit ces pensées qui viennent dominer, prendre la place de nos pensées. Et donc un autre texte qui nous parle de ça aussi, hein. Jean 8, donc au verset 31, « Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous la connaîtrez jour après jour, révélation après révélation. Alléluia. Et cette vérité vous rendra libre. » Et plus loin, au verset 37, Jésus répondait aux pharisiens, « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. » Le cœur était fermé. « Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Un petit peu plus loin, Jésus leur dira, « Vous avez pour père le diable. » Tant que Dieu n'a pas ouvert nos yeux spirituels et continue de les ouvrir, eh bien nous voyons que très peu. Nous avons besoin de cette connaissance du cœur, cette connaissance intime. Un autre passage pour illustrer. 1 Corinthiens 13, verset 9. « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Et il y a un dicton populaire juif qui dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et ce n'est pas toi. » C'est une vérité qui nous remet à notre place et qui nous donne conscience aussi de notre pauvreté spirituelle, de notre besoin permanent, d'être à la source, de puiser à la source de Dieu. Et c'est une connaissance révélée, bien sûr, dans une dépendance. Ce qui a pris fin quand le Seigneur nous a touchés, c'est qu'on a dit, il y avait ce chant, « Je veux dépendre de toi, Seigneur. » Vous vous rappelez de ce chant? Et nous avons dit, « Nous te voulons pour maître, pour directeur, pour conducteur de notre vie. » Et donc une dépendance, bien sûr, s'installe entre nous et Dieu. Actes 17, 27, il a voulu qu'il cherche, donc c'est Dieu qui parle, qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Merveilleux Seigneur, de ce que tu as mis cette volonté de te chercher. en tâtonnant, ça c'est sûr. Qui dira le contraire? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il est tout près, c'est vrai, si nous cherchons maintenant à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre esprit, là où le Seigneur vient nous visiter. Et Luc 17, 21, les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le règne de Dieu a déjà commencé, il est en vous. C'est ce message que je voulais vous rappeler, qui pour moi le plus important au moment de Noël, il est venu, Jésus est venu jusqu'à nous, et il continue de venir jusqu'à nous. Et on se dit toujours, qu'est-ce qui va rester? Alors peut-être vous allez retenir que ça. Pour parler avec Dieu, tu n'as pas besoin de... Bon, vous avez tous les icônes que vous connaissez. En fait, moi, je ne les connais pas tous. Ce n'est pas très grave. Ferme juste tes yeux et ouvre ton cœur. Ferme juste tes yeux et ouvre ton cœur. Le message que je voudrais qu'il dure en permanence pour chacun d'entre nous, c'est celui que Dieu écrit dans nos cœurs, sans effets spéciaux, doucement, silencieusement, très silencieusement. Mais celui-là, je sais que vous ne l'oublierez jamais. Alors ce que vous allez dire, mais quelle est la solution? Quelle est la solution? Où puis-je rencontrer Dieu? C'est simple, c'est très simple, et en même temps c'est compliqué pour nous. C'est compliqué pour nous parce qu'on est sans arrêt inondé par nos pensées, mais inondé aussi par ce monde extérieur. Et la chose toute simple que le Seigneur nous demande de faire est si précieuse, c'est de venir tout seul avec lui dans le lieu secret. Ce lieu secret que vous connaissez. Vous pouvez lire la Bible. Quand vous lisez la Bible, dans ce cas-là, arrêtez-vous à chaque mot que le Seigneur relève pour vous, met en lumière. Priez sur ces mots, priez sur ces paroles de Dieu, puisqu'il vous les donne, puisqu'il vous les éclaire. Elles sont votre nourriture pour aujourd'hui. Mais quelquefois, il n'y a pas tout ça. Vous pouvez vous asseoir simplement. Dire, Seigneur, je suis là. Et je sais que tu es là. Et laissez votre cœur être visité, inspiré, sans tenir compte de tout ce qui se passe autour. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, au point qu'il ait donné sa vie pour vous. Au point qu'il ait voulu faire sa demeure dans notre cœur. On veut lui laisser toute la place. Amen. Nous allons prier, je dirais, les uns pour les autres, afin que ces rendez-vous précieux, on ne les loupe pas. Oui, Seigneur, nous te bénissons de... ce que tu nous as accordé la vie, Seigneur. Nous étions loin de toi, Seigneur. Et Seigneur, tu as ouvert nos yeux. Seigneur, merci pour tout ce que tu as révélé à chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as éclairé nos vies, Seigneur. Nous sommes venus à toi, Seigneur. Nous avons décidé de te suivre, Seigneur. Nous avons compris que ta parole est la vérité. Ton esprit est vivant. Ton esprit nous vivifie. Il est celui qui nous révèle toutes choses. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour moi-même, Seigneur. Seigneur, que nous ne rations pas ces moments avec toi. Seigneur, nous voulons peser notre temps, mesurer nos occupations et voir tous ces moments précieux que tu as pour nous, Seigneur. Tu es venu faire alliance avec nous, Seigneur. Tu es venu plus que te joindre à nous, tu es venu t'unir à nous, Seigneur, d'un même cœur. Seigneur, nous voulons partager avec toi ce qui est sur notre cœur, bien sûr, mais Seigneur, nous voulons que notre cœur soit rempli, Seigneur, de tes pensées, de tes paroles, Seigneur. Viens nous inonder ce matin, Seigneur. Que le message de Noël, Seigneur, ce soit que tu es venu habiter dans notre cœur. Amen.